BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
De quoi est-ce qu'on parle ce soir? Du programme économique du Rassemblement National. Jordan Bardella ce matin qui nous a pas vraiment rassurés sur la manière dont il entendait financer certaines des mesures qu'il a annoncées. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Puis nos experts, on va leur demander leur avis. Ils seront là dans un quart d'heure, évidemment.
Ah oui, alors on va évoquer évidemment d'autres sujets, tous les sujets en lien avec les programmes électoraux qui sont tous maintenant sur la table. Alors, faut-il craindre, par exemple, pour son épargne, puisque l'ERN a confirmé ce matin le retour d'une sorte d'ISF. Et puis, est-ce que nous nous préparons à des relations tendues avec Bruxelles? Ça, c'est une vraie question. Et enfin, la France est-elle désormais le grand malade de l'Union européenne? Réponse dans un instant.
On fait des questions. Alors, trois économistes, un nid d'économistes ce soir pour parler de tout ça. Nathalie Janson pour Neoma Business School, Benjamin Coria pour les économistes atterrés et Marc Toiti pour le cabinet Assez Défis. Fallait bien trois économistes.
Quelque chose me dit qu'ils vont pas être d'accord.
Il y a des chances, effectivement.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc Jordan Bardella, 1h20 de conférence de presse ce matin à Paris pour dévoiler son programme au sens large et notamment les mesures économiques. Bonsoir Thomas, qu'est-ce qu'on retient fondamentalement sur le programme éco du Rassemblement National, Thomas?
Il a présenté un programme qui s'articulerait en deux temps. D'abord l'urgence cet été sur la sécurité, l'immigration et sur le pouvoir d'achat avec trois propositions. La baisse de la TVA sur l'énergie, la sortie des règles européennes de fixation des prix de l'électricité et l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur par décret au 1er juillet. Ensuite, il y a un deuxième temps à l'automne avec des réformes qui présentent comme plus structurelles, notamment les retraites avec un départ à 60 ans pour les moins de 20 ans qui ont cotisé 40 annuités, les carrières longues, et pour les autres, pour tous les autres, un retour progressif à 62 ans. Autre réforme, la poursuite de la baisse des impôts de production avec non seulement la disparition de la CVAE comme le promet la majorité, mais aussi la suppression de la C3S. Pour augmenter les salaires, l'ERN, ça on connaissait la proposition, veut exonérer de cotisations patronales pendant 5 ans jusqu'à 3 SMIC les entreprises qui augmentent les salaires jusqu'à 10%. Et enfin, pour financer l'économie, vous en parlez dans le sommaire, l'ERN veut créer un fonds souverain qui financerait l'innovation, les TPE-PME et les infrastructures. Et un dernier point enfin sur la méthode, l'ERN veut mettre en place, là aussi c'est dans le calendrier, dès cet été, trois commissions avant de faire des choix définitifs, une commission d'évaluation des comptes publics qui irait faire le fameux audit de nos finances publiques, des états généraux de la simplification pour demander aux chefs d'entreprise ce qu'ils attendent comme mesures de simplification, et enfin une conférence sociale sur les salaires et les conditions de travail chargée notamment de plancher sur le retour progressif à la retraite à 62 ans.
Voilà donc pour les principales propositions économiques du Rassemblement National. Merci Thomas, on en reparlera tout à l'heure bien sûr avec vous sur BFM Business. Alors, il y a eu beaucoup de reculades ces derniers temps et encore aujourd'hui, Mathieu Pechberti, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Vous vous concentrez sur le secteur de l'énergie. Ce que vous nous dites, c'est reculade sur reculade, finalement, sur ce sujet.
Oui, alors, c'est important, parce que le secteur de l'énergie, les mesures liées à l'énergie sont parmi les plus importantes du programme économique de Jordan Bardella. Il les décrit même parmi ses premières mesures en tant que mesure d'urgence. D'abord, sur la TVA, il a quand même fait un recul assez net sur le montant de la baisse de la TVA. On était jusqu'ici sur une baisse de TVA de 20% à 5,5%. Puis, il est en train de dire, désormais, depuis ce matin, qu'il faut s'aligner sur la moyenne des pays de la zone euro et on est à 11%. Et comme il n'y avait pas eu de chiffres très précis qui avaient été donnés jusqu'ici, aujourd'hui on est à 7 milliards d'euros d'économies sur ces mesures, alors qu'avant les estimations étaient autour de 11, 12, certains les chiffraient jusqu'à 17 milliards. Et puis ça c'est pour les mesures, on va dire, de pouvoir d'achat directement. Puis sur la mesure plus structurante qui était liée au marché européen de l'énergie, alors on est effectivement aujourd'hui très loin de ce qui était encore dans le programme du Rassemblement National au moment des européennes, qui était de sortir du marché européen de l'énergie, même de changer les règles du marché européen de l'énergie, ce que disait encore ce matin Marine Le Pen en réagissant à un de nos sujets. Puisque si vous changez les règles du marché européen de l'énergie, de fait, vous en sortez. Aujourd'hui, Jordan Bardella précise qu'il demandera à Bruxelles une dérogation pour, on va dire, plafonner les prix français de l'électricité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une mesure qui est absolument impossible à mettre en place, que d'ailleurs, le gouvernement, il y a 2 ans, avait quand même essayé de négocier à Bruxelles. Bruxelles l'avait dit, il en est hors de question. Et donc, aujourd'hui, Jordan Bardella fait cette précision sur une mesure dérogatoire dont les spécialistes pensent que, de toute façon, elle ne pourra pas être mise en place.
Merci beaucoup Mathieu Pechberti. Voilà donc pour les mesures énergétiques du Rassemblement National. Et alors parmi les pistes d'économie proposées aujourd'hui par le RN, il y a la suppression, vous n'avez pas passé inaperçu, d'une niche fiscale dont bénéficient les armateurs. Jean-Baptiste Huette nous raconte ça.
Depuis 2003, la France applique la taxe au tonnage, une disposition qui permet de taxer forfaitairement la masse totale d'une flotte de navires. Apparu pour la première fois en Grèce en 1957, ce régime fiscal s'est peu à peu imposé en Europe. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos voisins l'ont adopté. 86% de la flotte mondiale l'utilise. Une disposition fiscale optionnelle qui remplace la taxe sur les bénéfices pendant 10 ans, sans possibilité de retour en arrière. En fait, un pari sur l'activité. Cette taxe est très intéressante pour les armateurs lorsque les résultats sont records. En 2022, par exemple, elle a coûté une fortune à l'État, 3,8 milliards d'euros de manque à gagner. À l'inverse, en cas de période de creux ou d'activité atone, c'est moins intéressant pour les armateurs. En moyenne, elle a coûté à l'État 46 millions d'euros par an entre 2010 et 2020. Mais c'est encore trop cher pour le Rassemblement National qui souhaite sa suppression. Selon les calculs du parti, cela pourrait rapporter 1,2 milliard d'euros dans les caisses. Mais d'après les armateurs français, sa suppression conduirait au désastre en cassant la compétitivité de la filière maritime, isolant la France. De quoi aussi, explique-t-on, largement ralentir dans les années qui viennent les investissements dans la décarbonation.
Voilà donc pour le programme économique du Rassemblement National dont on va largement reparler bien sûr avec nos experts jusqu'à 20h hein, sur BFM Business. 19h05. Pendant ce temps, Bruxelles est en train de dégainer la grosse armada contre Apple. Elle vient de confirmer que d'après l'Américain, ne respecte pas les règles du fameux DMA européen. Il y a donc entorse à la concurrence. Il y a surtout un risque de très très grosse amende prochainement pour Apple. Alexandra Paget.
40 milliards d'euros, soit 10% de son chiffre d'affaires mondial, c'est le montant maximal qui peut être infligé à Apple. Du jamais vu, la commission lui reproche de ne pas se conformer au DMA. Certes, l'entreprise a ouvert l'iOS à plus d'applications non estampillées par ses soins. Elle permet aussi aux développeurs de ne pas passer uniquement par l'App Store, mais le système est encore si fermé que passer outre les solutions maison se révèle être la croix à la bannière, que ce soit pour les développeurs ou les utilisateurs. Apple, qui réfute toute pratique anticoncurrentielle, peut désormais exercer ses droits à la défense en ayant accès au dossier et répondre aux conclusions préliminaires. Mais si celles-ci sont confirmées, Bruxelles pourrait rendre une décision définitive de non-conformité d'ici à la fin mars 2025. La firme s'est déjà vue infliger en mars dernier une amende de près de 2 milliards d'euros pour des motifs similaires. Le géant californien fait systématiquement appel, mais cette fois la réponse du berger à la bergère est d'une autre nature. Apple a invoqué des difficultés posées par le DMA pour retarder le développement de ces outils d'intelligence artificielle en Europe.
Alexandra Paget, puis on va aller à New York pour terminer. Les banquiers juniors de Wall Street travaillent-ils trop ? La balle à dents, il faut le savoir, c'est 100 heures par semaine, sauf que vous avez le mois dernier deux jeunes salariés de Bank of America qui sont décédés prématurément. Le débat est donc relancé. Reportage sur place d'Antoine Hollard pour BFM Business.
Il y a deux ans, Christine J décroche le job de ses rêves, analyste dans une grande banque à Wall Street. Mais rapidement, l'expérience tourne au cauchemar.
Il n'y avait aucune séparation entre le travail et la vie privée. Je travaillais souvent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin et plusieurs fois par semaine, je passais même toute la nuit au bureau.
Un travail intensif, sous pression permanente, la jeune femme finit par craquer.
Un jour, je me suis évanouie au travail. J'ai été transportée aux urgences. J'étais la troisième de mon équipe à qui ça arrivait. C'était un environnement de travail très toxique.
À Wall Street, les banquiers juniors sont corvéables à merci et parfois les conséquences sont dramatiques. Le mois dernier, ce salarié de Bank of America meurt, foudroyé par une thrombose. Il avait enchaîné les semaines de 120 heures de travail. Sur des groupes de discussion, ses anciens collègues accusent la direction.
Son manager est responsable, il écrase les juniors de travail. Ses supérieurs savaient qu'ils travaillaient trop et ils n'ont rien fait.
Ce décès relance le débat sur les conditions de travail à Wall Street. Certaines banques ont bien pris des mesures. Interdiction de travailler le samedi, semaine plafonnée à 80 heures. Mais ces règles sont rarement appliquées. Karen Ho, professeur à l'Université du Minnesota.
Il y a une culture du surmenage à Wall Street avec l'idée que travailler énormément est un signe d'intelligence, un signe que vous êtes connecté en temps réel avec les marchés, car les marchés ne prennent jamais de pause.
Et la situation ne va pas s'améliorer car ces dernières années, les grandes banques américaines ont réduit leurs effectifs pour faire des économies. De quoi alourdir encore un peu plus la charge de travail de ceux qui restent.
Voilà, reportage Antoine Hollard pour BFM Business du côté de New York, 19h10. Tout ça nous amène où, figurez-vous, sur les marchés. Justement, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris, le CAC 40 qui reprend un petit pourcent, hein, 7 706 points ce soir à la clôture. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Justement, puisqu'on parle de Wall Street, là je vois les indices qui sont plutôt Non, c'est très épars finalement. Il y a pas de
oui, c'est en ordre dispersé, un voilà. Petit peu comme vendredi. Vous avez un Nasdaq qui plafonne un petit peu hein, suite aux nombreux records qui ont été touchés depuis le début de l'année. Quand le Dow Jones se rattrape un petit peu son retard, plus 0,7%. Le S&P qui est stable, le Nasdaq qui perd 0,7%. Le Nasdaq qui a été propulsé pendant des semaines et des semaines par Nvidia. Sauf que là, ça fait 3 jours que Nvidia perd plus de 2%. Il y a des prises de bénéfices après un titre qui a été multiplié par 3 depuis le début de l'année. Ça, vous vous rendez compte quand même de la dépendance de cet indice technologique à une seule et même valeur, hein, au point que Nvidia est passé de la première capitalisation mondiale la semaine dernière à 3e aujourd'hui, donc tout va très vite, avec également un marché qui regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, l'inflation américaine qui sera publiée vendredi, et puis ça y est, jeudi soir, c'est le grand débat entre Joe Biden et Donald Trump.
Hein, mais oui.
On va commencer à avoir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre en termes de programme, sachant que pour l'instant, les sondages donnent Trump gagnant, donc tout ça met un petit peu d'attentisme sur le marché, et donc un S&P qui est stable, un Nasdaq qui est pénalisé par Nvidia, quand le Dow Jones de son côté prend 0,7%.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Brack avec nous sur BFM Business. Il est 19h12, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov, avec nos experts. Alors on va pas mal décrypter évidemment le programme économique de Jordan Bardella. Pas beaucoup de précisions, pas beaucoup de chiffrages évidemment malheureusement ce soir à l'issue de 7h20 de conférence de presse. On posera la question de savoir si les épargnants doivent vraiment s'inquiéter pour leur épargne si l'extrême gauche passe comme l'extrême droite finalement, et puis est-ce que les choses dans tous les cas vont se corser avec Bruxelles, on va réclamer des dérogations sur des taxes, etc., etc., plus les dettes et les déficits bien sûr, tout ça jusqu'à 20h. Vous restez avec nous bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, on est reparti, les experts de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Audrey Tcherkov, bien sûr, et nos experts qui sont là, ils sont 3, tous économistes. On a pris des économistes ce soir, ça tombe bien, la crise s'y prête, c'est parfait. Nathalie Janson est avec nous, Nathalie, bonsoir.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey.
Professeur à Neoma Business School, Benjamin Coria, bonsoir Benjamin, bienvenue. Bonsoir. Professeur de sciences économiques à Paris 13, membre des économistes atterrés. Et Marc Toiti est avec nous, Marc, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là.
Ravi de vous accueillir, économiste, président du cabinet à ses défis. Donc 1h20 à peu près de conférence de presse ce matin pour Jordan Bardella pour présenter son programme économique. Alors à l'arrivée on dit quoi? Il n'y a pas beaucoup de chiffres, il y a toujours beaucoup de questions, Audrey Malraux.
Oui, alors c'est vrai, on ne sait toujours pas comment vont être financées la baisse de la TVA sur les produits énergétiques ou encore l'abrogation progressive de la réforme des retraites ou encore les hausses de salaire. Alors donc il y a cette question-là, comment est-ce qu'on finance ce programme? Et puis deux, êtes-vous surpris par le virage quand même libéral du Rassemblement National? Parce que il s'adresse vraiment aux patrons des petites et moyennes entreprises, Marc.
Alors, souvent vous me dites que je donne des mauvaises nouvelles. Moi je trouve qu'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui quand nous, quand même, c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'économie, on essaye de faire des efforts pour éviter justement un dérapage des comptes publics. Donc ça veut dire que ce qu'on essaye de faire depuis des années, parce que bon, n'oublions pas quand même que l'année dernière, il n'y avait ni aucun extrême qui était au pouvoir, et pourtant le déficit public a explosé. On est l'un des rares pays dans le monde, enfin du moins dans l'Union Européenne, où le déficit public a autant, je dirais, explosé donc l'année dernière. Et pourtant, il n'y avait pas de mesure particulière, je dirais, et d'extrême droite ou gauche, entre guillemets. Là, on commence à se dire, et je pense que effectivement, on a bien compris que si jamais le 8 juillet, il y avait, alors soit il n'y avait pas de majorité, ou s'il y avait un gouvernement qui annonçait une augmentation du déficit public, alors là, effectivement, il y aurait une sanction. Je vous rappelle qu'on a quand même...
On a déjà été sanctionné.
On a déjà été sanctionné. On a quand même cette année, dans le meilleur des cas, avant même les élections, à peu près 160 milliards d'euros de déficit public, et ça, c'était avant le mois de mai et juin, c'est-à-dire que depuis, on en parlera tout à l'heure, on a des indicateurs avancés, les directeurs d'achat notamment, ou de l'INSEE, qui a, l'enquête a été menée avant, la plupart des réponses ont été envoyées, selon l'INSEE, le 10 mai. Donc, avant le 10 mai. Donc, c'était pas encore dans les tuyaux, cette dissolution. Et déjà, on avait des signaux de baisse de l'activité, malgré les Jeux Olympiques, etc. Donc, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Également, les chiffres sur les perspectives d'emploi, on avait une hausse du chômage qui était annoncée par les chefs d'entreprise. Ça, c'était au mois de mai et juin, avant, encore une fois, la dissolution. Est arrivé, effectivement, ce phénomène-là. Donc, on a déjà une base de, encore une fois, minimum 160 milliards de déficit. Et donc, après... Évidemment. Alors si c'est le Front de Populaire, je sais pas comment ça s'appelle. Nouveau Front Populaire. Alors là, évidemment, ça va augmenter de à peu près 100 milliards. Donc bon, voilà, au diable avarice. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je m'attendais pas à ça parce que à la base, j'avais chiffré le déficit public supplémentaire du premier programme du Rassemblement National à 60 milliards. Là, on nous dit bon.
Et là,
60 milliards, on nous dit que ça sera autour des 10 milliards, 12 milliards. Bon, ouais. Bon, c'est encore une fois, et donc il y a des efforts qui sont menés. Moi, je pense qu'il faut de toute façon réduire
l'économie, Marc. Il y a pas de mesure d'économie.
Bah, enfin, non, c'est-à-dire le problème, c'est qu'ils comptent beaucoup sur la lutte contre la fraude, etc.
Alors c'est ça. Il y a les niches fiscales, il y a les taxes sur les énergéticiens.
Mais c'est vrai que globalement, il faudra faire des économies, et ça, pour l'instant, on n'a pas, je dirais, de clarté. Mais moi, j'ai envie de voir ce côté un peu positif en disant, pour une fois, dans une élection, on parle d'économie, ce qui est déjà pas mal, parce que ça fait deux élections présidentielles notamment, où on n'a quasiment pas parlé d'économie, et ce qui a fait justement que Macron, finalement, il n'avait pas de programme économique.
On en parle certes, mais est-ce qu'on en parle avec compétence et connaissance des sujets ? Voilà la question. Je n'ai pas Nathalie ou Benjamin qui veut attaquer là-dessus.
Je pense que le programme, en tout cas, pour le moment, est suffisamment flou, effectivement, pour... en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas eu de changement radical par rapport à ce qu'il avait déjà préannoncé, puisque depuis le début, il n'accentue pas les dépenses, il dit simplement qu'il va réduire des impôts. Oui. Et là, il a fait très plaisir, puisqu'il a dit qu'il irait jusqu'à la baisse, il finaliserait la baisse des impôts de production, qui sont souvent un leitmotiv qu'on retrouve du côté des entreprises.
C'est une promesse de Macron, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Et il va même plus loin.
Voilà. Donc, du coup, effectivement, il continue sur cette lancée avec, en plus, la baisse de la TVA. Mais on sait très bien que ces baisses de taux d'imposition, enfin, la baisse de la TVA, on sait très bien que le résultat est très incertain. Parce que, voilà, c'est le premier cours, je le répète souvent, d'économie qu'on fait, l'incidence de la fiscalité. Et on sait très bien que lorsque, et on fait ce genre de mesures, on ne sait jamais, enfin,
Vous arrosez tout le monde.
On n'est pas sûr du tout que ça aille en faveur des consommateurs, puisqu'il faudrait que ce soit un marché extrêmement concurrentiel pour que du coup ça retombe sur les consommateurs. Les biens concernés pour le moment ne le sont pas. C'est pas des marchés extrêmement concurrentiels. Donc effectivement la perspective d'avoir un gain au niveau du pouvoir d'achat est limitée. Et par contre on sait qu'il y aura une baisse des recettes. Donc de ce point de vue là, c'est pas très favorable. Après moi ce que j'attends depuis toujours, mais là on l'a toujours pas, c'est que de toute façon comme vous l'avez dit, on n'est pas sur une redéfinition de l'État avec ses tâches et donc les dépenses qui vont avec. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que si vraiment il voulait renverser la table, il serait venu avec une vraie définition, en tout cas une perspective de redéfinir le rôle de l'État. Et c'est pas
sur la table, pas de réforme de l'État. Non. En revanche, en effet, comme Guillaume le disait, on ratisse large, baisse d'impôts pour les entreprises, mais baisse d'impôts aussi pour les travailleurs, pour les familles. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Est-ce que ça vous semble être les bonnes conditions pour relancer la croissance ?
Écoutez, moi ce qui me frappe, c'est enfin une chose fondamentale qui a frappé un peu tout le monde, c'est le rétropédalage général sur les dépenses annoncées. Alors, vous vous en réjouissez, tant mieux.
Une fois que je donne une bonne nouvelle, vous voyez.
Attendez, si vous voulez bien. On est là pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Bon, donc, il la joue en défense, en disant il n'y a plus qu'un quart d'heure à jouer, et c'est bon. Le problème, c'est que les matchs, il n'est pas commencé. Le match commence le 8 juillet. Bon, donc, il rétropédale sur à peu près tout. Alors que il était élu sur 5 ans de campagne sur la hausse du pouvoir d'achat. Il n'y a plus rien. Donc, des deux choses l'une. Si, il y a la hausse de TVA dont vous avez parlé, la baisse de TVA dont vous avez parlé, sur lequel les faits plus qu'incertain. La dernière hausse de TVA notoire, c'est celle sur la restauration, et c'est les restaurateurs qui ont mis la différence dans leur poche.
Non mais attendez, donc, baisse d'impôts pour les travailleurs, notamment suppression des impôts moins de 30 ans.
Justement, c'est ça que je veux dire. Ouais. Des deux choses l'une. Parce que la grande question, c'est que il est élu sur le pouvoir d'achat et sur des aspects de sécurité sur lesquels on va revenir. Pour le moment, on regarde l'aspect économique. Bien. Donc, des deux choses l'une. Ou bien il rétropédale jusque dans les faits. Et dans ce cas-là, c'est même pas l'opposition au Front National qui va se manifester à partir du 8, c'est les votants Front National. Vous comprenez ? Ça veut dire que c'est pas possible d'avoir fait la campagne qu'ils ont fait, parce qu'il n'est pas élu depuis la semaine dernière. C'est une progression du FN permanente et spectaculaire et qui s'est accélérée dans la dernière période. Mais dont le cœur est la question du pouvoir d'achat. Donc, des deux choses l'une. Rien, ouais. Où il répond à cette demande. Et dans ce cas-là, vous pouvez être très satisfait. Il va falloir toucher à la fiscalité. Et, comment dire, tous les sourires qu'il fait aujourd'hui à l'entreprise, pour parler vite, au patrimoine, il n'est pas question de les toucher, etc. Il va falloir déchanter. D'accord ? Ou bien, mais ça c'est le point central. Ça veut dire que le Front populaire, on peut ne pas être d'accord. Hein, y a pas de problème là-dessus. Mais il finance ce qu'il dépense et il dit on va faire 14 tranches d'impôts et il dit on va faire un impôt sur le patrimoine. Non. Vous êtes pas d'accord avec ça. Oui. Mais ne dites pas qu'il ne finance pas. Si, il finance.
Comment ça tombe du ciel ?
Voilà, on a tombé sur l'incident
fiscal. Vous venez de dire que la fiscalité,
Attendez. Ce sur quoi je veux insister, c'est le point suivant. On peut ne pas être d'accord avec le Front populaire, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas dire qu'il ne joue pas carte sur table en disant on va faire 14 tranches d'impôts et on va taxer les hauts patrimoines à partir de 10 millions d'euros et on va les taxer fort.
Attendez.
Très vite, Benjamin. Mon point, c'est quoi ? Mon point, c'est que dans le Front national, il n'y a rien. Il n'y a aucun financement de prévu. Donc, moi, je dis, la partie, elle n'est pas finie le 7 juillet. Elle commence le 8 juillet. Et des deux choses l'une, hein, où ils financent les dépenses de pouvoir d'achat qui sont attendues, bien, où ils ne les financent pas, et à ce moment-là, donc, il va y avoir un gros problème, y compris dans son électorat.
L'argument de Marx, c'est de dire, oui, effectivement, c'est peut-être plus documenté du côté du Front populaire, mais effectivement, ça tombe pas du ciel. Voilà,
le vrai enjeu de la fiscalité, on le sait bien, mais Benjamin le sait bien, tout le monde le sait, encore un truc. La dernière fois qu'on avait tenté justement d'augmenter effectivement l'imposition sous François Hollande, il en est revenu en arrière. Même si
on précise pourquoi, Marc ? Parce que les fuites de capitaux ont triplé, justement, déjà, au moment de ces annonces.
Tu vois, c'est le principe de base. Mais là, tout le monde est déjà parti. Tout le monde est déjà dans les paradis fiscaux.
Très simplement. Déjà, je rappelle la base. Nous sommes sur un poids des prélèvements obligatoires de 48% du PIB selon l'Eurostat en 2022. On n'a pas encore 2023.
On est repassé devant le Danemark, première place du podium.
On est numéro 1 du monde. Donc, n'oublions pas de dire que notre. Parce qu'on croit qu'on ne paye pas d'impôts en France. Si, nous sommes numéro 1. Même en France, on n'a jamais payé autant d'impôts.
Des prélèvements obligatoires, c'est pas pareil.
Ok, avec les prestations, les cotisations.
Moi, je veux bien qu'on ait ce débat là, hein.
Non, je suis d'accord. Mais attendez. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est que même si vous augmentez encore une fois ces impôts, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on le sait très bien. Historiquement, c'est vérifié. On va casser l'activité économique qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, laissez-moi finir, est déjà très mauvaise. Donc, on va effectivement casser cette activité. Et à ce moment-là, on va donc réduire l'assiette fiscale. Oui. Donc, on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Mmh. Et donc, évidemment, on aura moins de recettes fiscales. Le dernier qui a essayé, c'est François Hollande. Il s'est cassé les dents.
Et ça n'a pas marché.
En arrière, sinon évidemment ça aurait été catastrophique. Donc voilà, l'enjeu est très simple. On ne peut pas dire que c'est financé parce qu'il n'y aura pas assez recettes fiscales escomptées.
Nathalie Janson, quand Jordan Bardella dit j'attends d'être au pouvoir à Matignon pour faire un audit des comptes et affiner mon programme, est-ce qu'il gagne du temps ou est-ce qu'il a raison de dire ça ?
De toute façon, vous savez très bien que c'est une Arlésienne la revue des dépenses. Bon, voilà, peut-être que lui il va vraiment la faire, mais ça fait même Bruno Le Maire a dit qu'il devait en faire une. Donc c'est clair, mais à nouveau, je pense que ce qui manque comme objectif, c'est de dire, je vais redéfinir la taille, l'action de l'État. Et c'est à partir de là qu'on peut avoir une action de
l'État. La réforme du périmètre de l'État, Nathalie, ça c'est l'arlésienne. Même Macron s'y est pas attaqué en 2017.
Mais on voit qu'on est dans une incertitude comme dans une autre. C'est-à-dire que lui, effectivement, a plus une politique au niveau de l'offre de l'entreprise, avec comme effet escompté d'avoir une incitation à produire et donc récupérer, comme là, on va faire un gâteau plus gros pour du coup avoir plus de rentrées d'impôts. Ouais. Donc, mais à nouveau, il y a une incertitude forte, donc on ne sait pas si ça marchera.
Écoutez,
et du côté de l'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que en fait, là, ils vous sortent les 14 tranches d'impôts, mais comme de toute façon, il y aura des effets incitatifs, on ne sait pas si ça produira les revenus escomptés qui couvriront les dépenses. Donc on est incertitude contre incertitude en termes de couverture des dépenses ou des non-recettes.
Alors Benjamin, pourquoi ?
Bon, on va pas avoir maintenant la discussion sur le Front populaire, puisque vous l'avez déjà eu dans l'heure d'avant, si j'ai bien compris. Ce qui est extrêmement important, c'est que dans un cas, il y a des annonces de financement extrêmement claires et on peut discuter sur la question de savoir jusqu'où on peut y échapper ou pas. Dans l'autre cas, il y a absolument rien.
Non, d'accord,
c'est ça qui est très inquiétant. Alors, quand vous dites, ah oui, mais il y a un choc d'incitation, machin, etc. Macron, il a fait ça pendant 7 ans. Le résultat, c'est 3 000 milliards de dettes, un déficit...
On avait déjà de la dette avant, quand même.
Donc, ouais, comment dire ?
On avait déjà de la dette
oui,
avant Macron.
Oui, bien sûr. Mais, bien entendu, c'est commencé avant. Mais je veux dire,
quand même bien augmenté,
Bardella, hein, c'est un petit oui. garçon à côté de, du choc de l'offre qu'a fait Macron. Faut être sérieux. Bon, cette politique, elle a échoué. C'est là qu'elle nous a mise. Alors, maintenant, lui, il va jouer au petit soldat avec sa politique de l'offre. Enfin, je veux dire, je ça, qu'il y a une ça fait rigoler tout le monde. Qu'est-ce que vous avez dit ?
Non, j'ai dit ce que vous avez dit. J'ai pas dit majeur, jamais dit majeur.
Bon, donc on est ramené à ce que je dis, ouais. à savoir il y a des dépenses annoncées qui ne sont pas
allez,
financées.
Mais Marc, non, mais c'est là où je suis moins optimiste que tout à l'heure, entre guillemets, c'est que moi j'aimerais qu'on aille plus loin. Qu'on fasse effectivement un grand soir fiscal,
oui, bien sûr.
Un grand soir de la dépense publique.
On en parle grand soir, Marc. Ça,
c'est alors, complètement. C'est une des promesses du RN.
Ah ouais, encore, oui, enfin,
après, là ils aussi, ont promis des grandes
oui,
assises sur le sujet.
Je pense que c'est important de dire les choses, mais c'est vrai que on est, faut le dire, hein, on est un petit peu dans la démagogie au
c'est
sens
petit
large.
Joueur,
comme c'est, comme
petit
c'est les joueur, élections, ouais. on n'ose pas effectivement dire vraiment ce qu'on va faire, mais moi je pense qu'il faut
on
le dire. Regardez ce qu'a fait Macron, justement, le déni de réalité permanent, ça n'a pas fonctionné. Et il a été élu, justement, sans parler vraiment d'économie, sans parler de ce qu'il allait faire. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Bon, même si quand même il y a eu des effets positifs, globalement, notamment sur l'investissement des entreprises. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que il faut annoncer la couleur aujourd'hui. Et je pense que, alors après, peut-être effectivement le Front Populaire qui lui annonce la couleur, on sait très bien que voilà, on va augmenter
non,
les impôts.
Non, mais ça, donc on sait très bien, on sait rien du tout.
On est simplement pas d'accord. Incroyable, bon. Historique. Ah, voilà. Sans parler des autres mesures, évidemment, mais. On a aujourd'hui besoin, encore une fois, d'assainir. Si on n'assainit pas, c'est clair qu'après, on aura des vraies sanctions sur la France, malheureusement.
Bon, un mot, 10 secondes, vraiment, parce qu'on passe la pause. L'histoire de l'audit, là, c'est une manière de gagner du temps. Il a tous les chiffres dont il a besoin, M. Bardella,
non,
aujourd'hui.
Je pense pas que, non, je pense qu'il ne bon. Sait pas. Donc,
comment ça, il ne sait pas
bah, je pense qu'il est audité tout.
Les agences de notation ont des chiffres et lui, il n'aurait pas les chiffres.
Mais enfin...
Je ne sais pas s'il est allé
que ce là aujourd'hui, ou l'extrême gauche qui arrive, tout le monde va demander un audit.
L'histoire de l'audit, c'est vieux comme le monde. Je veux dire, chaque nouveau gouvernement qui arrive et qui veut nier le programme oui. qu'il voilà. va faire et qu'il a annoncé commence oui. par dire ah bah oui mais on a trouvé oui. les caisses vides bon donc on le connaît par cœur
oui.
c'est pour ouais. ça
c'est la Libye
c'est pour ça que
c'est
je dis que le plus probable je répète dans mes hypothèses le plus probable c'est un mécontentement y compris de la base du RN parce que toutes les promesses en termes de pouvoir d'achat il va rien faire je prends date.
Enfin, il ne faut pas laisser entendre que l'extrême gauche ferait mieux. Hein. Mais bon, on
non, mais ça, c'est une.
Oui, oui,
on prendra le temps.
Oui, absolument. Justement.
Elle ferait bien pire, je pense.
Allez, on y reviendra. Oui,
allez, 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, les experts du soir sont avec nous, Nathalie Janson, Marc Toiti, Benjamin Coria et puis bien sûr avec Guillaume Paul. Donc on continue à parler du programme économique du RN. Donc avec cette question désormais, les Français doivent-ils s'inquiéter pour leur épargne? Parce que le fait est qu'apparemment, ils se posent beaucoup de questions.
Et oui, on a raconté notamment sur BFM Business comment les banquiers, les conseillers en gestion de patrimoine, vous savez, reçoivent beaucoup d'appels depuis maintenant 15 jours. Et notamment depuis la présentation des programmes du côté du Front Populaire, du côté du Rassemblement National, qui nous a donc annoncé aujourd'hui, mais on le savait plus ou moins, un retour d'une sorte d'ISF, voilà, d'expiration de l'IFI, taxation des revenus sur les valeurs mobilières, donc actions et assurance vie, avec l'idée toujours que ceux qui ont des actions, ceux qui ont de l'assurance vie, ne sont que des rentiers. Voilà, c'est
ça, ça vous plaît,
c'est un amalgame qu'on fait toujours un petit peu quand même. Benjamin, comment vous...
Non, mais écoutez, je veux dire... Il faut raison garder, hein, je veux dire. Le raisonnable, c'est pas de taxer les hauts patrimoines. Le raisonnable, c'est de les avoir laissés enfler comme ils ont enflé. Le raisonnable, c'est pas de faire en sorte qu'il y ait un retour d'une partie de la valeur ajoutée du côté du travail. Ce qui était déraisonnable, c'était quoi ? Moi, quand j'étais petit, hein, à l'école, on m'expliquait que la forme principale d'inflation, c'était l'inflation tirée par les salaires. On a eu quoi, là, pendant 2 ans ? On a eu une inflation tirée par les profits. On a eu des super profits dans l'agroalimentaire et dans les supermarchés.
Non, mais c'était une inflation importée.
Non, c'est pas importé.
Bah,
c'est,
non, mais attendez. Dans
le pétrole, dans le transport maritime,
oui, mais elle aurait pas eu
dans
lieu
la pharmacie,
s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine.
Non, en tout cas, importé ou pas importé, c'est de l'inflation tirée par les profits. Bon, c'est raisonnable ça ? C'est raisonnable ? Bon, on n'a jamais vu ça pratiquement dans l'histoire. Bien, on fait une taxe, soi-disant, sur les super-profits, qui est supposée rapporter 12 milliards d'euros, elle rapporte 350 millions.
Oui, mais merci, dit, comme vous en fait le coup ce matin de la surtaxe sur les rentes.
On se fout de la gueule du monde.
Non, mais on est d'accord, ça c'est un échec total.
Donc, alors, je réponds à votre question.
Oui.
Je réponds à votre question. Un retour de bâton, c'est-à-dire des formes de taxation sur les hauts patrimoines et sur les hauts revenus, sont-ils nécessaires ? Oui, absolument. De plus, non seulement pour des raisons de justice minimum, mais aussi compte tenu de ce qui est devant nous, c'est-à-dire la transition écologique. Si on ne va pas chercher de l'argent là où il est, vous croyez que c'est Total qui va la faire, la transition écologique ? Il faut arrêter.
Ah bah, ils vont grandement y contribuer. Ils vont grandement y contribuer. C'est quand même un acteur incontournable de la transition énergétique dans les prochaines années.
Non, Total,
oui,
Total, mais pour le moment...
Mais on va avoir
Total, des c'était une des rares entreprises pétrolières qui, en dépit des demandes du GIEC de ne pas ouvrir de nouveaux champs pétroliers,
le fait.
En permanence.
Non, mais on est d'accord.
Et pourtant, on ne la fera pas sans eux.
On ne fera que en les forçant à faire. Si on attend que eux le fassent,
ils ne le font pas. Il faut des mesures coercitives et on est d'accord sur le fait que faire confiance aux pétroliers pour nous sortir du pétrole, ça n'est pas la panacée.
Ceci dit,
attention, parce que sur l'ISF, attention à l'impôt qui forcerait les Français et les Françaises à vendre ce qui n'est pas liquide et ce qui est indexé sur la valeur de marché. Parce que quand on crée par exemple une start-up qui devient une licorne et que c'est valorisé justement sur une valeur de marché, bah quoi, on va être obligé de la vendre ?
Non, Marc Chouati. Je dis qu'il y a deux choses. Déjà, sur les super profits, encore une fois, allez dire ça aux petites PME, aux petites TPE.
Non, mais je ne le dis pas aux petites PME, je le dis aux grands patrons.
Ouais, mais on ne fait pas sur 40 entreprises du CAC 40 qui payent leurs profits, leurs impôts sur les profits qui sont réalisés à l'étranger. Ils payent déjà effectivement ces impôts sur les profits. Dites ça aux PME aujourd'hui qui souffrent, qui n'arrivent pas à joindre
les
deux.
Je ne le dis pas aux PME parce qu'on ne va pas viser les PME.
Vous êtes en train de dire,
n'inventez pas
des surprofits partout. Non, il n'y a pas eu des surprofits partout. Vous le savez très bien, l'inflation, c'est une inflation effectivement par les coûts, qui a été mondiale, comme l'a bien dit Audrey. Après, évidemment, qu'il y a eu des dérapages, parce que justement, on a voulu faire les boucliers en tout genre et qu'on n'a pas voulu justement laisser, entre guillemets, la vraie confrontation entre l'offre et la demande. Oui,
bon,
c'est une erreur de Macron.
Vous applaudissez.
C'est une erreur, tout à fait. Après, le vrai enjeu, moi, je vais vous dire très honnêtement, pour ne pas tourner autour du pot, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, dans des banques et ailleurs, etc. Franchement, ça pourrait être pour faire peur, j'ai jamais été aussi inquiet qu'aujourd'hui. Sur l'avenir.
Parce que vous étiez déjà très
de l'économie française. Et pourquoi ? Parce que ça fait 15 jours, je ne vous dis pas le nombre de coups de fil que j'ai tous les jours.
Alors qu'est-ce que vous entendez ?
De chefs d'entreprise, encore une fois, de chefs d'entreprise.
Alors, en France,
franco-français, qui ont créé leur boîte, qui arrivent à s'en sortir plus ou moins, qui se disent, moi je vais vendre ma boîte, ça ne sert à rien, je vais me faire... Des personnes qui effectivement me disent, alors est-ce que je peux passer mon argent en Suisse, au Luxembourg, au machin ? Ils n'ont pas des sommes énormes. Il y a cette inquiétude qui est en train de s'installer. Il faut être conscient.
Mais ça fait une semaine que le Rassemblement national s'adresse aux entreprises en les rassurant.
Je vous parle pour tous les programmes qui arrivent après le 8 juillet. Ce qui m'inquiète, c'est que si vous voulez, c'est parce qu'on en a parlé du Rassemblement national, de Front Populaire, mais même effectivement les autres partis aujourd'hui, leur programme n'est pas financé. Et moi, c'est ça ma crainte. Ça fait longtemps que je l'annonce. C'est que justement, tôt ou tard, comme on est sur le numéro 1 des impôts, il n'y a jamais autant d'impôts en France, il faut bien taxer quelque
part. C'est pas des impôts.
C'est
des prélèvements obligatoires.
Ça fait faire des économies. Les prélèvements obligatoires.
D'accord.
Laissez-moi terminer mon raisonnement.
Donc à partir de là, quand vous avez effectivement ce poids des prélèvements obligatoires qui est énorme, donc sur quoi on va taxer davantage ?
Oui.
Sur effectivement l'épargne. Donc le film il se termine comme ça. C'est-à-dire, moi je peux vous le dire, quelle que soit l'issue après le 8 juillet, malheureusement, sauf miracle évidemment, on ne sait pas trop d'où ça viendrait, malheureusement, il faut prévenir les Français.
L'assurance vie.
L'imposition, on verra le détail, l'imposition sur l'épargne, sur le patrimoine, passons par les ISF, parce que les très riches sont déjà plus là, ils sont déjà partis. Oui. On ne pourra pas les avoir, ceux-là. Ils sont déjà partis.
Ils font de l'optimisation fiscale.
D'ailleurs, on le sait bien, c'est ça le drame de la
société française. Les actions revenues quand même,
allez. Il y a tellement d'impôts, on a un impôt tellement complexe que ceux qui peuvent se payer les moyens, donc justement, d'un fiscaliste, ils payent moins d'impôts.
Non, mais il y en a. Oui, absolument, mais il y en a qui sont revenus, comme disait Guillaume,
ça reste la classe moyenne et ce sont eux. eux qui vont malheureusement payer.
Enfin, c'est ça qui aujourd'hui. On a aussi un nombre de foyers millionnaires en France qui a largement augmenté, et notamment dû, comment dire, aux réussites entrepreneuriales de ces 10 dernières années, Nathalie.
Oui, de toute façon, c'est un changement qui a été notable au cours de ces dernières décennies. C'est qu'en fait, en effet, on a un rôle accentué du financement par le marché financier, donc qui permet effectivement aux startups, enfin aux jeunes entreprises de se financer autrement, puisqu'avant on n'avait pas grand-chose en France pour financer les jeunes entreprises. Et donc forcément, cette catégorie existe de façon récente, parce qu'avant, voilà, le marché, il n'y avait pas ce type de financement disponible. Donc c'est pas lié, ce n'est lié qu'à la conséquence du développement du financement. Donc forcément, c'est après savoir s'il faut effectivement, c'est toujours facile de vendre l'idée qu'on va taxer des rentiers, des riches. Bon, je pense pas qu'effectivement ceux qui ont réussi de façon entrepreneuriale, ce soit, enfin, on leur tombe dessus après un coursi. Bon, ça, je veux dire, après tout, c'est parce qu'ils ont une idée et qu'ils ont fait des choses que les autres n'ont pas fait. Donc, je trouve que voilà, introduire de la morale là-dedans, c'est un peu trop facile de taper dessus. Maintenant, je pense qu'il faut surtout essayer justement de les garder à la maison. Et c'est en fait, c'est le plus grand drame qui pourrait arriver, c'est de effectivement de faire
Benjamin
en sorte
va vous répondre que le ruissellement n'a pas opéré.
Mais le ruissellement, il n'a pas opéré.
Deux choses. Bon, d'abord, tout à fait tranquillement. Ah. J'aimerais bien, puisqu'on est entre gens sérieux, qu'on ne confonde pas prélèvement obligatoire et impôt.
Bien sûr,
Non, évidemment. Oui, mais est-ce que vous avez fait sans arrêt?
Pourquoi? C'est pas une confusion, c'est une réalité.
Non. Alors, si vous permettez, pourquoi? Parce que les prélèvements obligatoires, vous m'écoutez bien là. Oui. En France, ils nous font faire des économies.
D'accord.
Laissez-moi finir.
Il ne faut pas s'énerver comme ça.
Benjamin,
on vous écoute. Allez-y.
C'est moi qui m'énerve.
Non. Vous avez la parole. Allez-y.
Alors, sur la sémantique, parce qu'en effet, c'est important. Donc, ça nous fait faire des économies.
Alors, pourquoi c'est important? Parce que la sécurité sociale, où on a des prélèvements obligatoires qui sont relativement élevés, fait que on dépense 10,5% du PIB pour les soins de santé en France, contre 19% aux États-Unis, où on est beaucoup plus mal soigné.
Oui, c'est vrai.
Donc, les prélèvements obligatoires, ça nous fait faire des économies.
Avec un système largement déficitaire. Mais bon, parenthèse refermée.
Pas si déficitaire que ça. En tout cas, très très loin de ce que serait un système non basé sur des prélèvements obligatoires.
Bon.
C'est indiscutable.
Ok, on continue.
Non, mais c'est pas, c'est pas discutable avec vous. Attendez, vous permettez. Bon, deuxièmement, notre système des retraites, il fait que, oui, c'est coûteux, notre système des retraites, parce que nous sommes un des pays en Europe qui prélève le plus pour assurer la meilleure retraite. On peut changer, c'est un choix de société.
C'est pas
M. Moiti qui va décider.
La démocratie nous invite. Bon, c'est la démocratie qui nous incite.
Non, c'est pas vous qui allez décider.
C'est la démographie qui va nous inciter à changer, Benjamin. C'est la démographie.
Oui, non, mais ça, c'est une discussion qui a commencé, au bout de laquelle on n'est jamais allé. Bien.
Ah bah là, on a l'extrême gauche et l'extrême droite qui veulent revenir dessus.
Oui, bien sûr. Parce que personne n'a voulu de cette réforme des retraites. 80% des Français étaient contre. Elle n'a pas été votée une seule fois. Bon. Et c'est la raison pour laquelle sommes où nous sommes aujourd'hui. Ne défendez pas des trucs indéfendables.
Bon, attendez,
vous me défendez des trucs qui n'ont jamais été votés.
Ah non, mais attendez, on est bien d'accord que le manque de dialogue démocratique explique la situation actuelle.
Il y a une discussion à avoir. Ayons-la.
Eh ben, c'est bien pour ça que ce débat existe, Benjamin.
Ne considérons pas que ce qui a été fait, c'est table de la loi.
Ah, mais
c'est
pas
n'importe
du tout.
Quoi.
Mais attendez, on est les premiers sur ce plateau à critiquer tous les sports qui doivent être critiqués et remis en question.
Bon, après, juste un tout dernier mot.
Très vite, alors.
Comment dire? Il n'est pas question de s'en prendre à l'épargne des petits épargnants. Je ne sais pas ce que vous allez inventer. Qu'il y ait, une indécision, et plus que ça, des marchés par rapport à ce qui va arriver, moi, je trouve ça tout à fait normal. Je ne suis pas du tout surpris.
Les petits épargnants s'inquiètent en ce moment, Marc, ou pas?
Les petits épargnants qui ont 10 000 euros et qui ont 20 000 euros, ils sont inquiets.
Il suffit de regarder les grandes chaînes pour comprendre pourquoi. Hein, parce que, je veux dire, on brandit de tous les côtés que...
Non, et là, c'est Marc qui vous le dit. Il dit, j'ai des gens qui ont 10 000 000, 20 000 euros de patrimoine.
Mais j'ai pas besoin de marque pour comprendre. Je n'ai pas besoin de marque. J'ai commencé par dire, je comprends très bien que les marchés s'inquiètent. Bon, mais dans les mesures qui sont prises, c'est pas du tout la petite épargne qui est visée.
Alors, on a bien
compris. Faut pas du tout prendre les enfants du bon Dieu pour des
cadeaux. Bon, en tout cas, il y a un attentisme qui se met en place de la part des investisseurs étrangers, français et des épargnants.
Grande question. Il y a quelques minutes qu'on voulait vous poser, c'est la France. Alors, c'est un terme un peu générique, c'est une expression un peu valise. Est-ce que la France est désormais le grand malade de l'Europe? Est-ce que ce qui peut se passer en France est susceptible de perturber, de poser un électrochoc sur la zone euro, à l'instar de ce qu'on a connu finalement il y a de ça 10 ans.
En fait, c'est simple, on est en train de vivre une crise grecque, mais puissance 10, parce que nous sommes la France.
La France n'est pas au bord de la faillite.
Mais quand vous prenez l'actif net de la puissance publique, c'est-à-dire avec le hors-bilan, on est à 6500 euros de dette publique. Vous enlevez l'actif, donc de mesuré par l'INSEE sur le compte de patrimoine, on est à 4500 euros. Voilà.
Par ailleurs, on a une dette qui continue d'être soutenable.
Ce que je veux dire par là, c'est que si demain, effectivement, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas que l'économie, c'est le social et le sociétal. Si vous me permettez, je trouve que Emmanuel Macron a fait une erreur historique. C'est-à-dire de mettre comme ça, effectivement, de déchirer de France sans préparation. En plus, on avait les Jeux Olympiques, on aurait pu peut-être attendre la rentrée, le débat sur le budget, certainement, il y aurait une motion de censure. Et là, effectivement, on aurait pu dissoudre l'Assemblée. Là, aujourd'hui, ce n'est pas préparé. Regardez ce qu'il vient de dire Macron à l'instant. Là, il vient de dire que les programmes des extrêmes mènent à la guerre civile. Mais comment un président peut dire ça, comme disait je sais pas qui? Un président ne devrait pas dire ça, si vous voulez. Et encore une fois, moi c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui.
Est-ce qu'on risque de porter un coup fatal à la zone euro, à l'image de ce qu'on a connu?
S'il y a une crise aujourd'hui en France, ça ne sera pas comme en Grèce. Je rappelle que nous avons 3100 milliards d'euros de dettes, sans compter le hors-bilan. Et donc évidemment, s'il y a une crise demain financière, une crise de la dette publique, inévitablement la zone euro sera impactée. Et n'oublions pas non plus tous nos voisins, tous nos partenaires de la zone euro, pas que les Allemands, mais les Italiens,
qui
ont fait des efforts budgétaires. Si demain on leur dit, mais nous les Français, on va continuer d'augmenter notre déficit public et notre dette publique, et vous faites ce que vous voulez, vous croyez que ça va?
Attendez, le Trésor français qui avait besoin de lever de l'argent a levé plus d'argent que ce qui était prévu. C'est classique. Ça n'aurait pas été le cas pour la Grèce. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une signature France qui continue d'être achetée.
Pour le moment, la dette de la France est achetée pour diverses raisons, enfin, qui tiennent effectivement à sa structure, au fait qu'en France, à la différence de la Grèce, nous n'avons pas de problème de rentrée fiscale, puisque c'était effectivement le double problème de la Grèce, c'était que les comptes n'étaient pas tout à fait clairs, mais qu'en plus, de toute façon, ils ne rentraient pas l'impôt. Donc, quand on est dans des économies comme ça, où l'évasion fiscale est importante, effectivement, on a un coût sévère sur la capacité du pays à pouvoir rembourser. Et ça a été le déclencheur de la crise grecque. Bon, la France, on n'en est pas là. Par contre, ça peut créer des tensions, comme il a été dit précédemment, puisqu'effectivement, un pays qui voudrait ne pas continuer à respecter des règles que d'autres s'imposent ou se sont imposées, et donc qui essaye de montrer qu'ils suivent ces règles, pourrait sans aucun doute créer des tensions. Donc voilà, donc on n'est pas effectivement dans un sérieux, mais on pourrait avoir des tensions sérieuses au sein des pays européens, parce que
le président allemand s'est exprimé en ce sens, il a exprimé ses inquiétudes.
La question, est-ce que les marchés pourraient, au-delà du 7 juillet, venir tester la solidité des dettes françaises,
par
ricochet allemande, italienne?
Il pourrait peut-être arbitrer ces derniers jours, il semblerait qu'effectivement il y ait eu des arbitrages en faveur de l'Espagne.
Le spread, l'écart de taux 10 ans entre la France et l'Allemagne a dépassé les 0,80 points de base, c'est-à-dire c'est un plus haut depuis 2012.
Oui, c'est ça.
Benjamin,
les marchés soient un peu secoués compte tenu de l'énormité de ce qui a été fait politiquement et de la période qu'on traverse. Quoi d'étonnant. Bon, ceci dit, pour de multiples raisons, il est à peu près clair que En tout cas, tant qu'on est dans ces limites-là de spread, voire un peu au-delà, il n'y a pas de gros problème.
Bien.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a traversé la crise Lehman Brothers, qui est quand même autre chose le déficit français, etc. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, moi je le dis d'autant plus tranquillement que j'y croyais pas. On a vu quoi ? On a vu la BCE. Qui a complètement, qui est complètement sorti de son mandat et de ses rails, et qui s'est mis à racheter de la dette publique jusqu'aux oreilles, en même temps qu'elle a racheté des titres, on ne sait pas trop comment, des entreprises.
Ça donc, fait partie de son mandat.
Non. C'était interdit.
C'est en 2015.
Nous, économistes atterrés.
Enfin, aujourd'hui, la BCE.
On a écrit un bouquin qui s'appelle L'Europe maltraitée après la modification du traité européen pour dire on peut pas interdire à la Banque centrale d'acheter des dettes et de jouer un rôle d'amortisseur.
Mais aujourd'hui,
parce qu'on pensait qu'il le ferait pas, mais il le fait.
Benjamin Candela, aujourd'hui à nouveau, si la France faisait défaut, la BCE rachète
Si on arrivait, je voudrais finir quand même. Si on arrivait,
vous baptisez un peu la parole, si je puis dire.
Je suis pas sûr. Si on arrivait à une situation dans laquelle l'Europe serait menacée, comme vous prétendez, la BCE agira.
Oui.
Et je pense...
Donc on peut continuer à claquer, la BCE fera, encouragera la morale.
J'ai dit si on arrivait à... Bon, il faut pas tout mélanger.
D'accord.
Alors, Nathalie, elle agira avant, puisqu'on a adopté depuis 2022 une clause qui fait que ça s'appelle la protection contre l'effet de transmission, si on résume le terme.
Oui.
Et de toute façon, elle irait augmenter la part de la dette française qu'elle pourrait acheter par rapport à la quote-part au capital. Donc de toute façon, effectivement, avant qu'on en arrive à une situation très grave, il va se passer un petit peu.
Donc ça veut dire, pour répondre à la question de Guillaume, qu'il n'y aura pas d'effet de contagion.
Alors, sauf pour terminer quand même sur les taux d'intérêt, parce que même si effectivement elle agit, on l'a vu sur l'Italie par exemple, mais les taux à 10 ans sont montés à plus de 4%, 5% même, pendant un moment. Donc ce qui
Mais non, c'est terminé ce genre de...
Mais même si on monte en France à 4% de taux 10 ans, quand même, ça veut dire que les taux des crédits vont augmenter. Là, l'immobilier qui est déjà évidemment à la ramasse, ça ne va pas s'arranger. Comprenez, donc, même si, encore une fois, on peut espérer que ça se passera bien, que les autres pays vont nous laisser faire, il y aura quand même des problèmes économiques en France.
Malheureux. Allez, 2 minutes 45 avant la fin, l'extra time, comme tous les soirs, vos avis, 30 secondes, coup de gueule ou coup de cœur, évidemment, c'est la règle. Marc, tiens, puisque vous avez la parole, vous voulez commencer ? Allez, 30 secondes.
Si vous voulez, oui,
allez,
bien sûr.
Parti.
En fait, non, simplement, c'était juste pour dire que, encore une fois, cette dissolution arrive à un mauvais moment, parce qu'on avait déjà des indicateurs des directeurs d'achat, de l'INSEE, donc sur le mois de mai et juin, donc avant que la dissolution, parce que les enquêtes ont été menées avant, qui montraient que la situation de la France est en train de s'effondrer. Donc, indicateur des directeurs d'achat, c'est le deuxième mois consécutif que tous les pays dans le monde sont en croissance. Donc au-dessus de la barre des 50, sauf la France.
Oui, ils étaient repartis à la hausse en France.
Hein. Oui, pendant juste un mois, le mois d'avril. Mais mai-juin, on est repassé sous la barre des 50, et ça, c'était avant les effets de la dissolution. Donc ça ne va pas arranger. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est le chômage derrière, qui est également en train d'augmenter.
Le pays est déjà à l'arrêt. Malheureusement. Coup de gueule de Marc ce soir. Nathalie, 30 secondes.
Eh bien, un coup de cœur, voilà, pour changer quand même.
Merci.
Alors, pour la candidate en Isère, de la 8e circonscription, je crois, Aurore Gallès, j'espère que je ne m'oublie pas son nom, qui en fait est une candidate qui est donc qui n'a pas de parti, mais qui favorise en fait, qui veut absolument insister sur le Bitcoin. Donc elle est pro-Bitcoin et donc elle veut effectivement faire promouvoir l'utilisation du Bitcoin. J'ai trouvé ça plutôt sympathique puisque c'est la seule en France à proposer ce genre, à avoir ce genre de proposition. Et c'est un effet de démarcation puisque aux États-Unis, il faut savoir que c'est un argument de campagne entre Biden et Trump, donc c'est très drôle qu'effectivement aux États-Unis on en parle beaucoup et qu'en France ce soit
absent. Est-ce que ça va marcher en France à suivre? Benjamin Coria, pour clore le bal.
Moi c'est un coup de cœur aussi, je me suis volontairement totalement décalé. C'est la mairie de Barcelone qui a décidé de lutter sérieusement contre le surtourisme. Bon, alors en fait derrière cette notion il y a Airbnb et il y a le fait que tout le centre historique magnifique de Barcelone a été acheté, voué à la spéculation par des gens autour du réseau Airbnb. Alors, il y a des mesures très durs qui sont annoncés. Les licences ne seront pas renouvelées. Ça veut dire que sur 5 ans, ça devrait être fini. Alors, ça ne va pas s'appliquer à 100%, tout le monde le sait. Mais en tout cas, l'annonce d'une telle mesure, c'est encourageant.
Et bien voilà pour le coup de cœur ce soir de les coups de gueule de nos experts sur BFM Business. Merci à tous les trois d'être venus. On a bien commencé la semaine avec vous. Fort sympathique, Nathalie.
Vive la République, vive la France. N'oubliez pas.
Néoma Business School. Oui, et votez bien dimanche. Marc Toiti, économiste, président du cabinet AC Défi. Benjamin Coria, professeur de sciences économiques à Paris 13. Merci à tous. À très vite. Avec grand plaisir sur BFM Business. Ben, c'est fini.
Ah oui, c'est terminé pour ce débat très animé qui est à retrouver, je précise. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour un autre débat probablement aussi très animé demain soir.
Ça sera bien demain soir aussi, je vous garantis, dans un instant. Oui, Benjamin, oui.
C'est d'entendre tous les turiféraires de Macron pendant 7 ans aujourd'hui expliquer qu'il est en dessous de tout, que, etc. Moi, j'aimerais bien que vous alliez chercher dans vos archives, oui. Voir les positions des uns et des autres sur les différentes réformes Macron. Parce que malgré tout, moi, j'ai quand même le sentiment que je ne me suis pas fait avoir.
Ah, bah, c'est le temps politique, ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ?
Place à Tech&Co.
Tech&Co, François Sorel, dans un instant, demain.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.